Aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est une journée spéciale, puis ça a un titre, cette journée-là, c'est la journée de la Pâque, mais je sais qu'aujourd'hui, on est mal informé. On a des mauvaises valeurs au niveau de la Pâque, de la compréhension de ce fête-là. Pourquoi qu'elle est là, ce fête-là? D'où est-ce que ça vient? C'est ce qu'on va regarder dans quelques passages de la parole de Dieu. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Le lunch est après. Vous êtes tous invités à rester avec nous pour pouvoir manger après on est pas pour toute la gang. Même si vous n'avez rien apporté, vous êtes invités, puis il y en a en masse pour tout le monde. On va voir aujourd'hui que la Pâque de Dieu, parce qu'il y a la Pâque qu'on fête aujourd'hui, c'est beaucoup plus, la Pâque de Dieu est beaucoup plus que des lapins en chocolat, des œufs en chocolat. Ou une simple réunion de famille. Aujourd'hui, c'est ça qui est la valeur de la Pâque. Lapin de chocolat, œuf en chocolat, des repas en famille. Mais on comprend pas la portée du message de la Pâque de Dieu. On voit que dans la parole de Dieu que c'est le plus grand mystère de Dieu qui a été révélé par Jésus. Pour nous faire comprendre la Pâque, il faut aller voir dans l'Ancien Testament. On va voir aussi que dans la manière que c'est expliqué, comment est-ce que le monde a déformé cette fête-là en laissant aller leur imagination, qu'elle n'a plus aucun sens aujourd'hui face au vrai sens réel, pourquoi Dieu a institué la Pâque. Dieu en a fait une fête dans l'Ancien Testament. Puis c'était la fête de la Pâque, puis ça avait un gros symbole, puis ça avait un message prophétique pour la suite des événements sur la terre, puis c'est ce qu'on va le voir dans un passage, puis ça a même une suite dans les événements dans la vie à venir. Le Seigneur, en donnant sa parole, il y avait un message prophétique à nous confier à travers de cette Pâque-là, de cette fête-là. Tout ce qui est le contenu de cette fête-là avait un message. Puis, pour comprendre le vrai message de la Pâque, mais il faut retourner dans l'Ancien Testament pour aller voir comment est-ce que Dieu a institué la Pâque et pour quelle raison qu'elle a été faite. Parce que c'est pour nous, en tant que chrétiens, c'est la fête la plus importante. Premièrement, parce qu'elle vient de Dieu, c'est Dieu qui nous a dit de la faire. Puis deuxièmement, à cause de son message. La Bible nous enseigne que les pratiques de l'Ancienne Alliance, les pratiques de l'Ancien Testament, là, tout ce qui se passait avec la loi de Moïse, puis les sacrifices, tous les rituels, puis les fêtes, puis les sabbats, ça avait un sens pour l'avenir. Ça avait un message à donner pour l'avenir, un message prophétique qui annonçait des choses pour l'avenir sur cette terre. On voit ça dans Colossiens au chapitre 2, versets 16 et 17. Puis ça nous dit que les fêtes, les lunes, les sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. Ça démontrait quelque chose à venir. C'est qu'il y avait quoi encore plus grand qui s'en venait de la part de Dieu, puis que ces fêtes-là étaient là comme l'ombrage des choses qui s'en venaient. Vous allez voir que quand on va avoir fini l'explication, vous allez dire, ben là, je comprends pourquoi que la fête de la Pâque est là. C'était la vraie chose qui devait s'accomplir. Tandis que quand ils l'ont fait dans l'Ancien Testament, c'était comme une annonce prophétique de ce qui était pour arriver dans le futur, dans l'histoire de ce monde. Ça nous dit aussi que les pratiques de l'Ancienne Alliance sont une représentation céleste. Dieu, quand il parlait dans l'Ancienne Alliance, dans la loi de Moïse, ça l'annonçait des choses invisibles, des choses qui viennent de Dieu. Puis il y avait un message en instituant cette fête-là pour nous dire que dans le futur, il va arriver des choses que Dieu va faire sur cette terre. Si on voit ça dans Hébreux 8, le verset 5, ça nous dit que les choses de l'Ancienne Alliance, c'est un nombre des choses célestes. Fait que quand on regarde un passage comme la fête de Pâques, ça va nous parler pour des choses futures qui vont arriver dans l'histoire, mais pour nous, on est encore plus loin parce que tout le monde a écouté le film « Les 10 commandements ». Quand que Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple d'Israël, guidé par Dieu, mais ça fait 3500 ans que ça s'est passé. Ça s'est passé 1500 ans avant Jésus. Puis Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est venu. Fait que nous autres, on est 3500 ans plus tard. Fait que la fête de la Pâque, quand Dieu a demandé de la faire, c'est tout de suite quand ils sont sortis de l'Égypte. Puis là, Dieu, il avait un message à donner qui est arrivé 1500 ans plus tard, puis ça s'est accompli à travers Jésus. Vous allez le voir. Pour comprendre le contexte, le peuple d'Israël, vous avez vu le film, il était esclave en Égypte. Il était sous une rude servitude. Il était obligé, ça nous dit, on voit ça dans Exode, le chapitre 1, le verset 13. Puis il était durement traité, pas juste comme serviteur, il était des esclaves, puis il était maltraité. On voit dans ce passage-là que les Israélites, les Égyptiens réduisèrent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Fait qu'il était tellement oppressé, le peuple d'Israël, par les Égyptiens, quand ils étaient en esclavage. C'est eux autres qui devaient faire de la brique, piloter de la boîte. Puis d'autres, ils ramassaient le foin dans le champ pour faire des briques, il y avait de la paille. Fait qu'ils faisaient de la brique à journée longue, fouettée, maltraitée. Ce qu'on voit un peu dans le film, on le voit un petit peu, où ce que les gens sont maltraités, puis les Égyptiens frappaient les Juifs. Puis en plus de ça, ils se faisaient mettre à mort. Ils mettaient à mort des gens comme ça. Puis dans le passage, ça nous dit que même les enfants... Il voulait limiter la croissance du peuple juif. Fait que si c'était un enfant mâle, il tuait l'enfant. Puis si c'était un enfant fille, il pouvait continuer à vivre. C'est là que, dans cette période-là, que les sages-femmes, eux autres, ça leur avait été ordonné par leur roi de faire mourir les enfants mâles. Puis les sages-femmes, ils se sont dit non, puis ils ont laissé vivre des enfants. Puis là, il disait au roi que les femmes étaient capables d'accoucher tout seules, puis étaient déjà accouchées avant même qu'ils arrivaient sur les lieux. Fait qu'on voit dans ce passage-là que comment est-ce que le peuple d'Israël il était maltraité, qu'il était opprimé, qu'il était frappé, écrasé, humilié, esclave dans un pays où ce n'était pas leur pays. Parce que quand ils ont été là, c'était 400 ans plus tôt qu'ils ont été en Égypte. C'était pour être une bénédiction d'aller en Égypte pour être sauvés d'une famine. Mais ils se sont installés là, puis avec le temps, les Égyptiens, ils les ont rendus esclaves. Puis là, ils étaient rendus des esclaves. Mais ils connaissaient Dieu, puis ils espéraient que Dieu vienne faire quelque chose pour les délivrer de la main des Égyptiens. Autant qu'ils étaient maltraités, mais il priait puis il réclamait auprès de Dieu une délivrance. Il demandait à Dieu de pouvoir envoyer quelqu'un pour les sortir de là. Puis Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, puis il a envoyé Moïse, qui est un juif lui aussi, mais il a été épargné des souffrances des Égyptiens. On voit ça dans le film. La petite fille a conduit le bébé, puis là, une parente du pharaon qui a ramassé le bébé, puis elle l'a gardé, puis elle l'a fait allaiter par une femme, puis c'était sa mère qui a allaité Moïse, puis après ça, elle l'a élevé dans les enseignements des Égyptiens. Moïse, il était rendu dans la famille du roi d'Égypte. Puis là, il a grandi là, il est instruit de tout ce qu'il devait apprendre dans ce pays-là pour probablement régner lui-ci parmi les Égyptiens, parce qu'il avait été instruit dans la connaissance des Égyptiens. Puis il savait qu'il venait du peuple d'Israël, puis il voyait tout le peuple qui était opprimé. Puis Dieu, il l'a appelé, puis il a dit... Je vais t'envoyer pour les libérer. Il y a un travail où ce que Dieu a agi dans leur cœur, dans son cœur. Il a emmené 40 ans dans le désert, puis là, il a été séparé du peuple d'Israël pendant 40 ans, jusqu'au point qu'il était rendu à 80 ans quand que Dieu l'a renvoyé pour aller délivrer le peuple. Il voulait pas que Moïse se fie sur sa propre force physique ou ses capacités pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire pour sortir le peuple. Il voulait apprendre à Moïse à dépendre de Dieu, parce que c'est Dieu qui était pour faire l'œuvre, pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Puis c'est là que Moïse a été envoyé avec la puissance de Dieu. Puis Dieu lui a montré des signes surnaturels. La puissance de Dieu s'est manifestée à travers Moïse. Puis là, vous pouvez aller lire l'histoire dans la Bible ou regarder le film. Ça nous parle de 10 plaies. 10 fléaux que Dieu a envoyés sur le peuple d'Israël, sur le peuple des Égyptiens, pardon. Tout l'ensemble du peuple juif était frappé par des fléaux, puis le peuple d'Israël qui demeurait en Égypte, eux autres, ça les atteignait pas. Fait que Dieu a fait des miracles incroyables. Il a envoyé des poux, il a envoyé des sauterelles, il a envoyé des grenouilles, il a changé l'eau en sang. Il y en a 10 plaies qui est arrivées, des grêlons, puis toutes sortes de ravages pour détruire les récoltes, puis détruire tout ce que l'Égyptien se glorifiait dans ce qu'il possédait, des mouches. Puis là, Dieu, en envoyant Moïse avec son onction, il avait averti Moïse que le peuple, que le roi d'Égypte laissera pas sortir le peuple. Fait que Moïse y était, puis il faisait les choses, là Dieu le renvoyait d'en faire un autre plaie. Puis là, il s'endurcissait, puis là, il retournait, puis là, il revenait. Dieu le renvoyait pour retourner avec un autre plaie. Puis ça a duré de même, je ne sais pas combien de temps que ça a duré, mais plusieurs semaines, où ce qu'il y a eu des fois un délai entre les deux plaies, plusieurs semaines où ce que Dieu envoyait Moïse, sachant que le Pharaon dirait non. Mais Dieu avait un plan extraordinaire. Il voulait manifester sa gloire sur la terre. Il voulait le montrer qu'il était Dieu, puis qu'il avait la toute-puissance, puis il voulait que son nom à Dieu soit répandu à travers toute la terre, puis que tout le monde puisse avoir la crainte du Dieu créateur de toutes choses. Dieu lui a dit, à dernière plaie, il va se passer quelque chose, là. C'est la dernière plaie, c'était pour être la 10e plaie d'Égypte. Puis, cette plaie-là, c'était de faire mourir le premier-né de chaque famille. Le premier-né était pour mourir. Premier-né des humains, premier-né des animaux même, de tout le bétail, de tous les Égyptiens. Puis même le peuple juif, il risquait de perdre le premier-né. Puis Dieu a donné une condition pour être épargné. C'est là qu'on rentre dans le sujet de la Pâque. Dieu a ordonné pour être épargné du jugement, puis que le premier-né meure. C'était pour être la 10e plaie d'Égypte, la dernière. Puis là, Dieu a averti Moïse, quand que ça va s'accomplir, là, vous allez sortir de l'Égypte. Les Égyptiens vont même vous donner du stock, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, puis toutes sortes de matériaux, puis ils vont vous pousser pour vous pousser à sortir de l'Égypte. Fait que Moïse y est allé, il a averti le Pharaon, puis là il dit, le premier-né de toutes les familles vont mourir. Lui, il croyait, puis il croyait pas, parce qu'il réalisait que c'était, puis ses magiciens, il avait dit, c'est le doigt de Dieu qui va agir, là, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir, puis lui, il s'endurcissait, puis il n'en est pas question, je ne les laisserai pas partir. Jusqu'à la dernière plaie, où ce qui était pour perdre, son premier-né, comme tous les autres dans le pays, t'as pour part de premier-né. Puis là, Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez prendre un agneau, une brebis ou une chèvre, ça nous le dit dans le passage ici, vous allez lire ça, Exode 12, verset 5. Vous allez prendre un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, un petit d'une chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, puis toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Fait que eux autres, pour comprendre, c'est que le soir commençait à brunante le soir. Puis là, ça durait 24 heures jusqu'à brunante le lendemain. Fait qu'entre les deux brunantes, des deux journées, du 14 de Nissan, qui était dans le calendrier juif, nous autres, on n'utilise pas ce calendrier-là, on utilise le calendrier romain, mais si vous voulez le savoir, ça existe encore, c'est quoi les mois pour les Juifs, à quelle date ils sont rendus. Puis là, Dieu a dit, le 14 de ce mois-là, entre les deux soirs, C'est-à-dire, tu as toute la journée pour le faire. Il fallait que tu immoles un agneau. L'immoler, c'est de le prendre, l'offrir en sacrifice à Dieu, de l'égorger, de verser son sang, récupérer son sang, puis là, de le faire cuire, l'agneau, pour le manger. C'était... Tout le peuple d'Israël avait à faire cela, cette journée-là. Puis là, Dieu leur a dit, vous allez prendre le sang de l'agneau, de cet animal-là que vous venez d'égorger, vous allez mettre du sang sur le cadrage de votre porte, puis sur le cadrage de vos fenêtres, là, sur les poteaux. Puis là, il dit, je vais envoyer l'ange exterminateur qui va être envoyé dans le pays d'Égypte. Puis chaque maison où ce qui va passer, s'il ne voit pas du sang sur le cadrage de porte, le premier-né de cette famille-là va mourir, que ce soit des Égyptiens ou des Israélites. Fait que le peuple d'Israël venait d'apprendre quelque chose. Dieu, il comprenait pas la portée du message prophétique qui était dans ce message-là. Mais ils ont compris qu'on était mieux d'obéir à Dieu si on veut pas périr comme les Égyptiens. Même s'ils comprenaient pas toutes les pourquoi des choses, ils ont obéi. Le peuple d'Israël, ils ont pris des agneaux. Toutes les familles qui ont pris des agneaux, ils l'ont offert sacrifice, ils ont pris sang, ils ont beurré le cadrage de porte. Puis ça nous le dit dans Exode 12, il dit, allez prendre un agneau, vous allez prendre un agneau ou un chevreau, verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour, c'est le 14 du mois de Nissan, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs, on prendra de son sang, on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. Puis là, Dieu leur avait ordonné de faire cela, puis il dit, quand que ça va arriver, de toute façon, le peuple d'Israël savait que Dieu ne ment point. Les 9 autres plaies qui étaient arrivées avant sont arrivées comme Moïse l'avait annoncé. Dieu y avait dit, puis ça s'est arrivé. Puis il savait, le peuple d'Israël, que la 10e plaie était pour arriver aussi. Puis c'était quoi la 10e plaie? La mort du premier-né de chaque famille. Puis là, Dieu lui a dit, mettez du sang sur vos cordelages. C'est cette nuit que l'ange exterminateur va passer. Puis quand l'ange va passer, s'il voit le sang sur le cadrage, l'ange va passer par-dessus la maison. Il touchera pas au premier-né qui est protégé par le sang. Très beau message. Le sang était le signe du salut dans ce passage-là. Parce qu'à cause que le sang était là, ça venait de les sauver. Il venait d'être sauvé du jugement de l'ange exterminateur qui était pour faire périr. Ça nous dit dans Exode 12, le verset 12, il dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Fait qu'il dit, quand je vais voir le sang, je vais passer par-dessus vous. Savez-vous que le mot « Pâques » en anglais surtout, voilà une période, le mot c'était « Passover ». C'est ça qui était le mot pour la Pâques. Aujourd'hui, je sais pas s'ils s'en servent encore beaucoup, mais c'est plus Eastern parce qu'on a changé le sens, comme je disais tantôt. On a changé le sens. C'est comme Noël. Aujourd'hui, tu penses à Noël, puis ça veut dire Père Noël, puis le sapin, puis des boules. On a perdu le sens parce que le mot Noël voulait dire naissance. On parle de la naissance de Jésus. On a changé le sens de la fête. Mais aujourd'hui, Pâques, c'est la même chose. On a changé le sens de la fête de Pâques. Avant, c'était Passover. Qu'est-ce que ça voulait dire, Passover? Passer par-dessus. L'ange exterminateur, Dieu lui-même, passait par-dessus la maison où il y avait du sang. Mais c'était ça le sens de Pâques. Il voulait dire passer par-dessus. Puis c'est par la foi que les Israélites obéirent à Dieu. Ils ont cru, ils savaient que Dieu est sérieux, puis Dieu leur a dit, « Mettez du sang, c'est correct, Seigneur, on va en mettre du sang, hein? On pogne l'agneau, on l'égorge, quand on en met du sang. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il croyait que c'était important ce soir-là qu'il y ait du sang sur le cadrage, sinon le premier-né de sa famille était pour mourir. Dieu l'avait annoncé, puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé. Il y a eu le premier-né de tout le peuple d'Égypte qui sont morts, que ce soit du roi jusqu'aux serviteurs, même les animaux. Le peuple des Égyptiens avait des animaux. Le premier-né de chaque animal, les familles qui n'avaient pas le sang, ils ont tous péri. Parce qu'ils n'ont pas mis le sang sur le cadrage. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Dieu les avait dit de le faire. Le peuple juif l'a fait, mais les Égyptiens ne l'ont pas fait. Puis ça, dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 28, ça nous dit, « C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. » C'est parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu, puis là, ils ont pris du sang, puis ils l'ont mis sur le cadrage. C'est par la foi qu'ils ont obéi, c'est par la foi qu'ils ont été sauvés. Le sang de l'agneau qui a été versé ce soir-là dans chaque famille a sauvé la vie de chaque premier-né de ces familles-là. Là, on commence à rentrer dans le message prophétique que Dieu voulait faire dans la suite des temps. Le fait d'obéir à Dieu amenait deux choses au peuple de Dieu. Il s'est passé deux choses en mettant le sang sur leur cadrage de porte ce soir-là. Premièrement, ça a été la libération de l'esclavage, puis ils ont obtenu la terre promise qui leur avait été annoncée. Dieu leur avait dit, je vais vous donner la terre promise. Mais il fallait qu'ils sortent de l'esclavage. Puis les Égyptiens ne voulaient pas les laisser partir. Fait que c'est Dieu qui a fait la plaie pour que les Égyptiens les poussent dehors. Ils les ont chassés. Ils étaient tellement tannés de se faire frapper par Dieu que là, le premier-né, il y avait des morts partout dans toutes les familles. Là. La parole de Dieu était dure. Puis là, les gens, ils ont quitté. Ils disent, mec, ça arrive, là, vous faites ça, puis vous allez rester habillés, puis vous allez sortir à la hâte. Vous allez vous dépêcher à sortir d'ici, parce que là, Dieu opérait la délivrance. Puis quand Dieu ouvre la porte, tu sors. On sort de l'esclavage de l'Égypte. Dans Exode, c'est ça que ça nous dit, Exode 6, le verset 6, ça nous dit, 6 à 9, « C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. » Et regardez bien la promesse que Dieu lui faisait à cause de cet événement-là de la Pâque. Et je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Fait qu'il était pour être rendu libre de tout cet esclavage-là. Il aurait pu à servir et à faire de la brique et tout ça. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Dieu était pour les sauver. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à Abraham, et à Isaac et à Jacob, puis je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Fait qu'à cause de cette promesse-là, qui a été faite à travers le sang, il dit, je vais vous protéger, puis en plus de ça, je vais vous affranchir de l'esclavage, je vais vous sortir de là. Les Égyptiens ne veulent pas vous laisser partir. Il dit, c'est moi qui vais vous sortir, puis vous allez être mon peuple. L'autre affaire que ça leur a donné d'avoir mis le sang de l'agneau sur le cadrage, c'est l'exemption du jugement de Dieu. Dans Exode 12, 27, là, il expliquait à quoi qu'elle servait la Pâque. C'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le message de la Pâque, c'était deux choses. Il nous sort puis il nous délivre de l'esclavage. Puis, en plus, ils ont été délivrés, protégés du jugement de Dieu de par un des membres de leur famille. On voit là-dedans l'importance du sang qui a été mis sur le cadrage. Puis là, Dieu en a fait une fête, cette journée-là. Il l'a appelée la fête de la Pâque. dans Exode 12, le verset 14, il a exigé qu'on célèbre cette fête-là tout le reste du temps qu'il y aurait du monde sur la terre. Ça dit, vous conserverez le souvenir de ce jour, puis vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Fait que la fête de Pâques, la vraie fête de Pâques, de se rappeler que Dieu opérait une grande délivrance pour délivrer le peuple d'Israël, le sortir de l'Égypte, puis de l'emmener vers la terre promise, puis en même temps d'épargner le peuple du jugement. Tout ça, ça avait été donné la journée du 14 de Nissan, qui était la journée de la fête de la Pâque, puis Dieu a appelé ça la Pâque, ça veut dire passer par-dessus, où ce que l'ange exterminateur a passé par-dessus le peuple. Puis là, Dieu a dit, faites-en une fête. Aujourd'hui, on a oublié tout ce qui s'est passé. On le voit un peu dans les anciens films, là, mais aujourd'hui, c'est du chocolat, lapin de Pâque, des repas en famille. Mais Dieu avait un message, comme je vous ai dit, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est un message pour les choses à venir sur la terre, puis des choses du ciel. Qu'est-ce que Dieu était pour préparer de spécial cette journée-là pour cette fête-là? Quel est le message de la Pâque aujourd'hui? Ben, aujourd'hui ou plus tard, on va le voir dans un passage. L'accomplissement du message a commencé quand Jésus est venu sur la terre. Jean-Baptiste, qui est un... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean-Baptiste. C'est un prédicateur, c'est un prêcheur. Il prêchait des rues, puis il criait au monde de se repentir et de croire en celui qui viendra après lui. Puis quand Jésus est venu, Jésus s'est fait baptiser d'eau. Puis là, le Saint-Esprit a descendu sur Jésus. Là, Jean-Baptiste a compris, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la venue du Messie. Il savait pas qui était le Messie, mais celui qui l'a envoyé baptiser, il a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, puis venir sur lui, c'est celui-là qui est l'agneau de Dieu. Le lendemain du baptême de Jésus, Jean-Baptiste prêchait, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jésus a été annoncé comme étant l'agneau. La fête de la Pâque qu'il y avait eu dans l'Ancien Testament, c'est un agneau qu'ils ont pris, puis ils ont pris le sang de l'agneau, puis l'ont mis sur le cadrage. Puis ceux qui avaient le sang sur leur maison, ils étaient épargnés. Là, Jean-Baptiste a commencé à annoncer, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever le péché du monde. Le message a commencé à être prêché. La même chose que dans le temps de Pâques, Moïse prêchait le message, mettez du sang sur vos cadrages, le sang de l'agneau, puis vous allez être épargnés. Le même message a recommencé à être prêché quand Jésus-Christ il a commencé son ministère. Jésus a dit que le royaume des cieux est proche. Puis là, il disait au monde de se repentir, puis de croire. Puis Jésus annonçait qu'il devait mourir. On l'a lu tantôt. Il a annoncé d'avance qu'il était pour mourir, être mis à mort par les hommes, mais pour ressusciter d'entre les morts. Puis son sang était pour être le sang de l'Alliance, la nouvelle Alliance. L'agneau de Dieu a versé son sang comme l'agneau dans l'Ancien Testament avait été vidé de son sang, mis ses cadrages de porte, s'épargner la vie des gens qui étaient là. Mais Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu pour enlever le péché du monde. Son sang a été versé, puis c'est son sang maintenant qui peut couvrir les gens pour les épargner de la colère à venir. Parce que Dieu va revenir, puis va faire rendre compte à chacun pour ses péchés. Puis on voit dans ce passage-là, c'est ça le message, que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, dans la nouvelle alliance par Jésus, c'est Jésus qui est notre Pâque. C'est grâce à son sacrifice, son sang qui était versé, ça nous permet à ce que Dieu passe par-dessus nous autres, puis on n'est pas frappé par le jugement. Quand je parle du jugement, je vous le cache pas, on va tous ressusciter, tout le monde, On va avoir à rendre compte de nos paroles, de nos actions, de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Sauf ceux qui sont couverts du sang de Jésus, Dieu va passer par-dessus. C'est pour ça que les églises évangéliques annoncent le message du salut à travers le sacrifice de Jésus, qu'il a versé son sang, justement pour qu'on l'applique sur nous, pour qu'on puisse être exempté du jugement éternel. Maintenant, Jésus est notre Pâque. Autant que les Juifs devaient célébrer la Pâque, puis de prendre un agneau, puis répéter cette Pâque-là à chaque année. Par prendre un agneau, verser le sang, puis servir de manger l'agneau, puis toujours se rappeler ce que Dieu avait fait. Mais maintenant, c'est Jésus qui est notre Pâque, puis c'est à notre tour de célébrer la fête de la Pâque, puis de se rappeler du sacrifice de Jésus qui a été immolé pour chacun de nous. Grâce à son sang, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. En Hébreux 10, 19, ça nous dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, maintenant, à cause du sang de Jésus, nous sommes exemptés de la colère. » Ça, on voit ça dans 1 Thessaloniciens 1, 10, qu'on est exempté de la colère, puis on a une libre entrée à rentrer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, pour être en communion avec Dieu. Autant le peuple d'Israël, ça les a épargnés de la colère, puis ils ont pu rentrer dans la terre promise, mais nous, en tant que chrétiens, quand on passe à Jésus pour recevoir d'être couvert du sang de Jésus, en acceptant Jésus comme notre sauveur personnel, ça nous couvre, le sang de Jésus nous couvre, puis on est purifié par le sang, on est préservé de la colère, puis on a un libre accès à rentrer dans la présence de Dieu. Un dernier passage. Lorsqu'on laisse Jésus appliquer son sang sur nous, c'est symbolique, là, c'est pas, il ne descendra pas puis nous beurrer avec du sang, c'est spirituel ces paroles-là. Jésus vous propose à ce que vous deveniez tous à être son peuple, à être ses enfants. On vient pas au monde enfant de Dieu, on le devient. C'est lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel que là, on est pardonné de nos péchés, que le sang de Jésus nous recouvre, puis à cause du sang de Jésus, on est préservé de la colère à venir. On n'a pas de mérite là-dedans. C'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, c'est pas parce qu'on est plus riche. Ça n'a pas d'importance, c'est le même prix pour tout le monde. Si vous voulez être pardonné de vos péchés, si vous voulez avoir une relation avec Dieu, être en contact avec Dieu, vivre des choses avec Dieu, allez à Jésus. Puis Dieu vous appelle à ce que vous faisiez partie de sa famille, de son peuple, pour pouvoir être exempté de la colère à venir, puis en plus de recevoir le cadeau de la vie éternelle. Un dernier passage nous dit, dans l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 5 et 6, ça nous dit, « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Ça nous parle de Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever les péchés du monde. Si aujourd'hui, pendant que vous êtes assis là, ou pendant qu'on écoute les messages sur Internet, vous réalisez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, que vous n'êtes pas encore engagé à suivre Jésus-Christ, je vous le dis, résistez pas. Donnez votre vie au Seigneur. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Recevez-le. Laissez-le entrer dans votre vie. Soyez repentant. Désirez vouloir changer de vie, puis il va le faire. Son sang va vous couvrir, puis là, quand il va vous regarder, il va voir le sang de Jésus sur vous. Ça va faire de vous des exemptés du jugement. Ça va faire de vous un peuple qui appartient à Dieu. Parce qu'il est en train de se faire un peuple. puis un jour, il va revenir, puis il va venir nous prendre avec lui, puis on va se retrouver à revenir, puis il y a une histoire qui va se dérouler après. Mais en attendant, résistez pas à son appel. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je fais un appel, s'il y en a parmi vous qui veulent recevoir Jésus comme leur sauveur personnel, qui veulent faire la paix avec Dieu, qui veulent recevoir le pardon de vos péchés, vous voulez que le sang de Jésus vous couvre, il y a une seule manière, vous devez l'accepter, puis lui dire que vous voulez qu'il rentre dans votre vie, puis il va le faire. Puis votre vie va commencer à changer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent recevoir Jésus comme leur sauveur personnel? Mais ça fait partie de la Pâque, la vraie Pâque de Dieu. La Pâque de Dieu, c'est le sang qui a été mis pour préserver de la colère de Dieu. Puis aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le sang de Jésus qui peut recouvrir notre personne individuellement pour être exempté de jugement. Je vais quand même faire une prière pour ceux qui voudraient accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je crois que Jésus est mort sur la croix, qui a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre et te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'a entendu. Dieu pardonne vos péchés. Il vous a donné le Saint-Esprit. Vous êtes sous le sang de Jésus. Gardez la foi. Persévérez dans la foi jusqu'à la fin. Puis un jour, quand on va quitter ce monde, on va tous quitter ce monde, vous allez être prêts. Vous allez avoir reçu ce qui peut vous donner l'accès à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.